Je vous dis tout, on se dit tout, une chronique Radio Languedoc animée par Ilem Gouli, soutenue par CLIX 34, le comité de laïcité et de cohésion sociale. Une chronique qui vous permet de libérer la parole, de rester vous-même et de donner tout point de vue sur une question. Hélène Mondreau est avec nous aujourd'hui. Radio Languedoc reçoit cette ancienne mère, mais aussi une femme investie, engagée. Qui est Hélène Mondreau? Hélène Mondreau, née le 1er décembre 1940 à Montpellier. Hélène Mondreau a poursuivi une carrière politique dans sa ville, conseillère municipale de 83 à 89. Elle a été adjointe au maire délégué à la démocratie locale, aux Maisons pour tous et à l'Antigone des associations de 1989 à 1995. Elle a été ensuite adjointe au maire délégué aux finances, à l'informatique, à la gestion du personnel municipal, à l'administration générale, aux contentieux et assurances de 1995 à 2001. Et enfin, première adjointe au maire délégué au personnel municipal, finances, l'administration générale et aux questions de défense de 2001 à 2003. Elle a aussi été conseillère du district de la communauté d'agglomération de Montpellier et conseil régional du Languedoc-Roussillon, créatrice d'Euromédecine en 1985 avec Igor Barrère. Docteur en médecine, titulaire d'une thèse sur les études des respirateurs en caissons hyperbares, elle nous en parlera, 1969. Hélène Mondreau a été médecin anesthésiste, réanimateur attaché des hôpitaux et médecin généraliste à la Mosson jusqu'en janvier 2006 où elle donnera sa retraite. Enfin, le plus gros, c'est également Hélène Mondreau. La face politique a été présidente de l'Association des villes universitaires de France, AVUF, de octobre 2008 à juin 2014. Maire de Montpellier de 2004 à 2014, elle a été vice-présidente de l'Association des maires des grandes villes de France. Hélène Mondreau, le temps passe et elle est là, elle a fait la joie de nous répondre ici à Radio Languedoc. Je tenais à la remercier. Bonjour Hélène.
Bonjour Ilem.
Alors avec tout ce parcours, comment allez-vous d'abord aujourd'hui?
Oh, très bien. Vous savez, comme je dis toujours en riant, j'ai un très bon médecin à domicile.
Ah. Alors, bienvenue d'abord à la Radio Languedoc. Ça vous arrive de l'écouter ou de l'avoir...
Merci de m'avoir invité. Mais je reconnais que quand je roule, je mets de la musique. Je reconnais que je n'écoute pas les radios. Je les écoute pas. Je les écoutais il y a fort longtemps. Maintenant, quand je roule en voiture, je mets la musique. Et chez moi, je regarde les nouvelles à la télévision. Je reconnais.
Alors, vous êtes dans le cadre d'une émission qui s'appelle « Je vous dis tout, on se dit tout ».
C'est vous qui dites tout, c'est pas moi.
Alors, qui est écouté par pas mal de Montpellierains? On est combien d'auditeurs là jusqu'à... Fou, ça monte 80 000 auditeurs. Voilà.
Ben bonjour aux 80 000.
Vous avez été docteur en médecine et vous avez préparé une belle thèse qui avait en 1969. Comment était l'ambiance de cette époque? Parce qu'aujourd'hui, avant, c'était...
Oh ben, j'étais dans le service à l'époque du professeur Duquelard. Donc, c'est une thèse que je faisais quand je faisais ma spécialité d'anesthésiste. Et donc, en fait, c'est une thèse, ça concerne notamment les accidents de plongée. Vous savez, quand les plongeurs, effectivement... Donc, quand on les remonte, on met les plongeurs dans des caissons qu'on appelle hyperbares, et progressivement, on les remet au niveau terrestre, si vous voulez, par là. Mm-hmm. Et donc, ma thèse, c'était, j'avais un chien, un brave toutou, qui était un chien adorable, que j'endormais, je l'endormais. Une fois endormi, je le branchais sur un respirateur. Et après, je mettais mon chien et le respirateur dans le caisson hyperbare. Et comme ça, j'ai testé plusieurs respirateurs, parce que les respirateurs, effectivement, il y a des valves dans les respirateurs.
Oui.
Et donc, selon la pression, les valves, ben, elles fonctionnent plus ou moins bien. Donc, il fallait trouver le respirateur le mieux adapté à un accident de plongée. Donc j'aurais pu être médecin, vous voyez, des plongeurs.
Des plongeurs, oui, tout à fait. Ça, je vois après que quelques années après, vous êtes installée à la Mosson. Oui, comment c'était ces années-là?
En association avec mon mari. C'est-à-dire que j'ai fait un chemin plutôt inverse. Je suis passée de l'hyperspécialité à la médecine générale. Mm-hmm. Et je peux vous dire que la médecine générale, c'est passionnant. Et moi, je regrette qu'aujourd'hui, on a un véritable problème de désertification médicale. Ça fait des années que je le dis. Désertification médicale dans le milieu rural et désertification médicale aussi dans le périurbain. Et ça fait déjà un bon moment que ça existe. Et maintenant, on en voit les résultats maintenant. Si vous avez des médecins dans la rue, faut pas vous étonner.
Vous les avez déjà à l'époque.
Moi, ça fait longtemps que je le dénonce. Mais bon, c'est quand il y a un problème qu'on se rend compte. Mais c'est pas quand on a le nez devant le mur, mm-hmm, qu'il faut prendre une décision. Vous savez, on dit en médecine qu'il vaut mieux prévenir que guérir. En l'occurrence, il aurait mieux valu prévenir. Mais c'est un véritable problème. Et un autre problème, moi, qui m'inquiète, c'est aujourd'hui, en parlant de médecine, c'est la déshumanisation de la médecine. Aujourd'hui, on est en train de déshumaniser la médecine. Un médecin, on a besoin d'avoir le patient devant nous, de, mm-hmm, l'interroger, de le regarder, de l'examiner, mm-hmm, voilà. Si on fait de plus en plus de médecine devant un écran, excusez-moi, le contact n'est pas là. Le colloque singulier n'est plus là. Donc, attention à ne pas déshumaniser.
Alors, c'est quoi? C'est effectivement le fait est qu'il y ait une carence en termes de
Ah, ben il y a de moins en moins de. Oui, il y a beaucoup moins de médecins qu'avant. Et comme je vous dis, dans le rural et en périurbain. Voilà. Mm-hmm. Non, aujourd'hui, il y a un vrai, véritable problème.
Alors, effectivement, vous avez été attaché dans les hôpitaux. Plus loin encore, parce que vous êtes aussi une humanitaire. Vous avez déjà été sensible aussi à d'autres causes au-delà de la France ou pas
Une année, on m'avait demandé, je suis allée faire de la médecine humanitaire à Madagascar.
À Madagascar.
À Madagascar. Le matin, quand j'arrivais, c'était Bernard Fabre qui m'avait demandé. Mm-hmm. Bernard Fabre, qui a été un adjoint de Georges Frêche, qui a été bâtonnier de l'Ordre des Avocats. Et Bernard Fabre m'avait demandé un jour si j'acceptais de faire de la médecine. J'ai dit d'accord. Et je suis partie à Madagascar. Le matin, quand j'arrivais, j'avais à peu près de 50 à 70 personnes qui m'attendaient pour la consultation.
Vaccin, consultation, tout quoi.
50 à 70 personnes qui étaient là. Alors, en malgache, le blanc, ça se dit Vaza. Et alors, quand on savait qu'il y avait un médecin Vaza, il y avait énormément de consultations.
D'accord. Ça vous a tiré des leçons aussi derrière cet humanisme parce que traverser autant.
Vous savez, écoutez, s'il y a une profession qui doit être humanitaire, c'est bien la profession médicale. On est vraiment dans le contact avec l'humain. C'est formidable. Mm-hmm. Non, moi, je pense que ce sont des années que je ne regrette absolument pas. Et si c'est à recommencer, je recommence.
Et peu importe le barrage du langage, finalement.
Mais bien évidemment. Mais vous savez, faut pas oublier que Madagascar a été française, mm-hmm, pendant très longtemps. Et il y a beaucoup de malgaches qui, mm-hmm, parlent le français.
En parlant justement de médecine, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez... alors, vous avez donné votre point de vue, effectivement, sur les carences qui manquent aujourd'hui en termes de médecins. Mais Montpellier, est-ce que vous avez quand même...
Montpellier est une ville. Bah, écoutez, Montpellier, n'oubliez pas que la faculté de médecine a pété ses 800 ans l'année dernière. N'oubliez pas, mm-hmm, ça, quand même.
Tout à fait.
S'il, mm-hmm, y a quand même à Montpellier, la médecine...
Vous m'arrachez les mots de la bouche, oui, mais c'est très bien.
Quand même. Moi, j'ai passé ma thèse à la faculté de médecine de Montpellier, donc Montpellier est connu pour la médecine depuis fort fort longtemps. Hein. Donc on a quand même des grands noms qui sont passés par la ville de Montpellier. Vous savez, vous n'oubliez pas que vous avez Rabelais, Nostradamus, ils sont passés par là.
Tout à fait, tout à fait. Et puis il y a aussi des traces un peu plus lointaines qui ont été pointées en médecine, mais des médecines du monde, hein, qui ont été reconnues de grands peuples qui sont passés sur Montpellier et qui ont laissé aussi des indices. En parlant de Montpellier, on va aller plus loin puisqu'on va un peu imaginer un entonnoir, hein, puisqu'il y a tellement de choses et on va arriver jusqu'à notre objectif. Et vous avez été conseillère district, conseillère de régionale du Languedoc-Roussillon et puis après, bien évidemment, Montpellier, vos plus grandes décisions en politique qui vous ont marqué et qui ont,
en tant que maire. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'un maire, Du reste, c'est une... je pense que c'est un mandat exceptionnel, le mandat de maire. Moi, j'ai toujours dit, entre mandat de parlementaire et le mandat de maire, je choisis le mandat de maire. Parce que le mandat de maire, d'abord, c'est un mandat exécutif. Et puis, c'est celui, si vous aimez les gens, je veux dire, tout, quel que soit le geste, aussi petit soit-il ou aussi grand puisse-t-il être, tous les gestes sont importants. Quand vous vous occupez du quotidien, quand vous vous occupez du trottoir, c'est important. Et en même temps, quand vous vous occupez de représenter votre ville à l'international, c'est important. Donc je crois qu'il y a, tous les gestes sont importants. Il y a aucun, je ne vais pas vous dire qu'il y a un grand geste. Non, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Tous les gestes du quotidien sont importants et les gestes aussi comme je vous dis, de représentation extérieure. Par exemple, bon, moi, le dernier bâtiment dont je suis responsable, c'est l'arbre blanc. Donc, je pourrais vous... Voilà, par exemple, je pourrais... Mais pour moi, c'est l'arbre blanc fait partie de tous les autres gestes que j'ai faits pendant mon mandat. Il n'y en a aucun qui domine les autres. Ils sont tous égaux.
Alors, on a beaucoup de Montpellierains qui nous écoutent et qui viennent d'arriver dans cette ville. L'arbre blanc, vous pouvez nous raconter un peu cette histoire de l'arbre blanc? Parce que c'est vrai que quand on passe... Ce fameux bâtiment qui avait été conçu par, alors je pense,
Monsieur
un architecte...
Monsieur Fujimoto.
Voilà. qui a été quand même... Il fait partie, en fait, des grandes folies. Vous pouvez nous un peu parler de ce projet? On va arriver parce que culturellement, il commence à marquer les esprits.
Il existe ce qu'on appelle les folies. Voilà. Et à l'époque, Michael Delafosse, qui est aujourd'hui le maire de Montpellier, était mon adjoint à l'urbanisme. Et on avait un projet commun qui était le projet de mettre des folies, mais les folies aujourd'hui de notre époque. Et le projet, c'était de mettre une folie, une folie dans chaque quartier de la ville. C'est-à-dire, à la fois, ces folies auraient pu servir à l'école aux futurs élèves architectes. Et en même temps, ce circuit des folies, c'était aussi sur un plan touristique important. Puisque toutes ces folies, il y avait de grands noms des architectes différents les uns des autres. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, il y en a une que les gens connaissent peut-être moins, c'est Folies Divines.
Oui.
Voilà. Et la dernière, effectivement, c'est l'arbre blanc avec M. Fujimoto.
Le but, c'était d'attirer encore plus de Montpellierens valoriser le patrimoine
Le but était double. À la fois aider les étudiants en architecture, c'était important, et en même temps, permettre aux architectes du 21e siècle de s'exprimer. Du reste, c'est pour ça, regardez, la nouvelle mairie, c'est Jean Nouvel. Donc, on a eu comme ça des grands architectes qui sont arrivés à Montpellier. Le dernier pont qui s'appelait le pont de la République de Rudy Ricciotti. Rudy Ricciotti, qui, vous le savez, c'est lui qui a fait le Mucem de Marseille.
Donc,
tous ces grands architectes, quand vous les voyez... Le projet, c'était ça, donc ces folies, c'était en même temps des vitrines pour des grands architectes de notre époque. C'était ça aussi, donc c'était à la fois éducatif pour les étudiants, mais c'était aussi touristique pour tout le monde.
Ces grands projets marquent les esprits, et aussi en parlant de l'avenue de la République, où vous parlez justement de la mairie aussi, c'était lors de votre mandat, cette... beaucoup de gens me disent, alors ce grand cube noir,
quand je suis devenue maire donc en 2004, c'est Georges Frêche qui avait choisi le projet de Jean Nouvel. Voilà. Mais moi, quand je suis arrivée maire de Montpellier, c'est moi qui ai signé le permis de construire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à partir de là, en 2004, j'ai rencontré Jean Nouvel, faut pas oublier François Fontès.
Oui, l'architecte
L'architecte de Montpellier. Et donc, il a fallu pour construire cette nouvelle mairie. Ce qui était important, c'est qu'il faut savoir que dans la nouvelle mairie, il y avait à peu près 950 fonctionnaires qui étaient regroupés, alors que dans la mairie qui était à côté du polygone, il n'y en avait que 450. Et beaucoup de fonctionnaires étaient disséminés un peu partout dans la ville. Donc, le fait de regrouper les services dans un même lieu et un même endroit pour le fonctionnement de la ville et pour les fonctionnaires, c'était beaucoup nettement plus pratique. Et donc, la nouvelle mairie, je l'ai inaugurée en 2011. Voilà, donc, 2004, il avait donc 2004, quand je suis devenue maire, j'ai signé le permis de construire et j'ai inauguré 2011. Voilà le temps qu'il a fallu pour construire cette nouvelle mairie avec Jean Nouvel et François Fontès.
En tout cas, c'est un point symbolique à Montpellier qui est situé du côté du quartier Port-Marianne. On va un peu aller plus loin en parlant de quartier. Vous avez aussi intervenu, alors déjà vous en tant que, dans le libéral en tant que médecin, mais aussi vous avez intervenu sur plusieurs projets dans les quartiers dits ZEP ou REP, les quartiers sensibles comme la Paillade ou Saint-Martin. Ou...
Ça, alors, ça c'était les dossiers en rue.
Oui, donc on y arrive, les dossiers en rue, je crois que c'est de votre initiative en tous les cas, cette fameuse grande barre de Tours
Qui a été détruite, vous voulez dire, oui.
Oui, votre point de vue dans l'ensemble, hein, sur l'Enrue.
Tour du Petit Bar. Les dossiers en rue, je m'y suis effectivement, je m'y suis attaquée dès le début de mon mandat en 2004, parce que je crois que quand, dans une ville, vous savez, c'est comme le corps humain. Imaginez votre main. Si vous avez un panari au bout d'un doigt, toute votre main est malade.
Oui.
Bon, et bien dans une ville, c'est pareil. Vous avez plusieurs quartiers. Si vous avez un quartier qui est malade, la ville est malade. Parce que personne n'est... Tout le monde a un peu peur, quelque part, que ceux qui sont là, ben, ils vont venir là. Enfin, vous voyez que...
C'est ce qu'on appelle des préjugés, quelque part.
Voilà. Mais enfin,
vous avez réussi, vous, de votre côté, à les...
Donc, ce qui était très important, justement, donc, c'était de permettre à ces quartiers en difficulté de sortir de leur isolement. Faut surtout pas ghettoiser, c'est un mot qui peut évoquer d'autres. Voilà, faut surtout pas enfermer les gens dans leur quartier, faut pas enfermer les gens dans leur immeuble. Je crois que la mixité, il y a une mixité sociale qui est indispensable. Il faut que les gens puissent aller, venir et circuler. Et entre parenthèses, je vais vous raconter une petite anecdote en parlant de aller, de venir. Une année, je sais pas en quelle année c'était, j'avais reçu un Américain du Texas, d'Houston.
Oui, oui.
Bon, ça évoque les feuilletons, feuilletons américains.
Hein.
Et donc, avec cet Américain de d'Houston, on traverse la Comédie. Et alors, vous devinerez jamais ce qu'il m'a... Il était là, il me regardait, et il m'a fait une réflexion, mais j'étais suffoquée. Mais il me dit, mais il était étonné de voir que les gens traversaient la Comédie dans tous les sens, qu'ils allaient, qu'ils venaient, qu'ils se croisaient, que tout le monde... Bon, et voilà. Et il était étonné de voir que tout le monde pouvait se croiser comme ça, côte à côte, et puis qu'ils n'avaient pas d'armes. Ah ben j'ai dit non, on n'a pas d'armes. Écoutez, vous auriez vu cet Américain, mais il était sidéré de voir que les gens... Ben,
oui, il y a un contraste entre,
que tout le monde se croisait
entre chez lui et ici. Quoi.
Que tout le monde se croisait sur la Comédie sans problème. Oui, comme quoi. Hein.
Vous avez mis un point d'honneur dans un projet auquel je me souviens très bien, qui c'était le vivre ensemble. Et vous disiez que c'était au-delà des mots et que c'était quelque chose...
Montpellier vivre ensemble.
Oui, Montpellier vivre ensemble. Vous avez acté sur plusieurs quartiers, dont celui de Saint-Martin, où résidait... vous aviez concilié d'ailleurs entre laïcité, c'est une chose, et aussi les peuples qui unissent ces quartiers-là.
Montpellier vivre ensemble, pour moi, c'est très net. Je pense que nous devons tous nous respecter les uns les autres. Je crois que... Comme les hommes doivent respecter les femmes, nous devons tous nous respecter. On doit respecter les enfants, on doit respecter l'autre dans sa différence, qui que ce soit. Tous les humains, j'allais dire, moi je le dis souvent, souvent je le rappelais, n'oubliez pas qu'à moins de 100 000 ans, nous sommes tous cousins.
Oui.
Nous sommes tous cousins,
tout
les humains.
Mm-hmm.
Donc, vivre ensemble, c'est respecter l'autre dans sa différence. Et d'autant plus que cette différence, elle t'enrichit. Parce que l'autre, il est différent par rapport à toi, mais toi, tu es différent par rapport à lui. Donc, chacun s'enrichit de la différence de l'autre et chacun respecte l'autre. Alors, bien évidemment, en sachant que la liberté de l'un s'arrête ou commence la liberté de l'autre. Voilà.
Mm-hmm.
Chacun
se...
Mais respectez-vous les uns les autres.
Vous avez soulevé une question aussi, à un moment donné, celui de la femme. Aujourd'hui, on parle dans plusieurs entreprises qu'au-delà du plafond de verre qui existe, mais qui a vraiment un réel besoin de femmes sur des postes de direction, de responsabilité. Vous étiez maire, vous avez su justement pallier des situations ou des dossiers autour de cette professionnelle, femme, homme.
J'ai géré non pas en fonction des compétences. Je veux dire, voilà, moi... J'ai géré en fonction des compétences des uns et des autres. Je veux dire, il faut pas... Si on veut que ce plafond de verre s'écroule, il faut effectivement avancer de façon en équilibre, je veux
tout
dire.
Tout à fait, oui.
Nous sommes, voilà, les hommes et les femmes, nous sommes tous égaux. Et à compétence égale, nous sommes égaux, il n'y a aucune raison pour qu'on n'ait pas des postes de responsabilité, et les uns et les autres.
Et bien que certaines sont très ambitieuses, et que c'est bien aussi l'ambition qui fait que...
Mais aussi bien les uns que les autres, pas plus, je veux dire. Il faut arrêter ces images, les femmes font ci, les hommes font ça. Non. La seule différence qui existe pour moi entre un homme et une femme, c'est que, j'allais dire physiquement parlant, l'homme est plus fort que nous, c'est sûr. Homme, il va vous soulever un poids de 50 kilos, et la femme va soulever un poids de 10 kilos, je caricature,
oui,
vous comprenez ce
sûr.
Que je veux dire. Mais si vous enlevez la différence de la force, l'homme est plus grand. Il est plus grand, toi tu es plus petite, voilà, mais bon. Mais en dehors, il va courir plus vite, toi tu vas courir plus lentement. Mais si vous enlevez la différence physique, de force physique, les hommes et les femmes sont identiques. Ils ont les mêmes capacités intellectuelles. Je veux dire, moi je peux vous assurer que dans mon milieu, un homme, un médecin homme ou une femme médecin, c'est pareil, c'est la même chose.
Nous sommes
tous les deux, entre mes confrères et moi, il n'y a pas de différence. Et quand on parle de médecine, on parle de façon égale.
Il y a eu des prix Nobel quand même qui ont été accordés à des femmes, ça il faut l'admettre, mais en politique c'est un peu plus, on va dire, biaisé par, des attitudes peut-être, des expressions.
Il faut déjà ne pas oublier que les femmes n'ont eu le droit de vote qu'en 1944, les femmes en France n'ont voté qu'en 1945 pour la première fois. Donc alors que ces messieurs occupaient les postes de responsabilité tous les siècles qui ont précédé. Donc là déjà on part avec un handicap. Au départ on a un handicap puisqu'on ne vote que depuis 1945.
On va revenir à vos tout premiers pas et pour en terminer, vous êtes né à Montpellier. Et on parle de l'Occitan, nous, ici.
Oui, j'ai vu.
Même si cette interview, il pourrait être traduit, hein, ceci dit.
Mais... Non, mais je sais que « oc », ça veut dire « oui », quand même. Hein.
Voilà. Je vais aller plus loin. La place de l'Occitan par rapport à cette candidature de Montpellier pour 2028, capitale européenne de la culture. Vous pensez que l'Occitan... Et assez relevé parce que ça fait partie quand même.
Je veux dire, ça fait partie effectivement de la culture. Hein, mais ce qu'il faut noter quand même par rapport à cette candidature pour 2028, Montpellier n'est pas seul. Ce qui est important, c'est qu'autour de Montpellier se sont regroupés notamment Sète, Agde, Pézenas, Lunel, le Grand Pic Saint-Loup, ça paraît pas, mais c'est un sacré territoire, et avec le soutien du département et de la région. Donc cette candidature pour 2028, vous aurez effectivement, on pourra parler de la Languedoc, mais avec le Pic Saint-Loup, on pourra parler de la viticulture, avec Agde, Sète, tout ça, vous voyez ce que je comprenais, ce que je veux dire. Avec Sète, on pourra parler des joutes, enfin voilà, donc c'est capitale culturelle, c'est à la fois donc notre patrimoine, notre patrimoine qui nous représente, et puis tout ce qui nous lie, j'allais dire, de la mer au Pic Saint-Loup, c'est quand même pas mal. Hein.
Voilà.
Ça fait quand même un beau territoire. Et oui, mais moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous représentons... moi, du reste, je regrette que la région Languedoc-Roussillon n'existe plus. Hein. Moi, personnellement, je regrette que cette région n'existe plus.
Pourquoi?
Qu'elle soit... vous savez, excusez-moi, entre...
C'est volontaire, la question.
Ouais. Non, non, pas du tout. Entre Nîmes et ses arènes, et puis de l'autre côté, le Gers, c'est son foie gras. Si vous trouvez... il n'y a pas tellement de lien entre les deux, il n'y a pas de lien les uns avec les autres. Tandis que, ici, nous avons effectivement une identité très forte méditerranéenne, bien évidemment.
Donc pour vous, la place de l'Occitan à travers cette candidature sera plus valorisée, d'autant plus que...
Il faut parler de l'Occitanie.
Et de notre patrimoine, notre terroir.
Il ne faut pas oublier que, comme on dit au nord, quand on disait oui, on disait « oil ». Et ici, quand on disait oui, on disait « ok ».
Et en Alsace, on dit « ya ». Mais la place de l'Occitan, de toute façon, à travers cette candidature, c'est quand même, quelque chose de très important. Et la place de l'occitan, c'est la question de toutes les langues en France, que ce soit en Bretagne, que ce soit aussi en Alsace. Il y a effectivement des restrictions, on va dire, depuis quelques années. Hélène Mandrou a donné son point de vue, effectivement, sur cette question.
Je trouve que c'est une bonne chose.
Et notamment sur cette étendue entre 7 jusqu'au territoire de l'agglo, hein, si on peut dire, même plus loin. Hélène Mandrou, vous avez peut-être pour finir et finaliser une petite phrase ou un proverbe que vous gardez toujours en vous ou une expérience que vous souhaitez partager enfin ou un mot qui vous
si
paraît...
Je vais peut-être
c'était
vous...
la question surprise.
Je vais peut-être vous finir par une phrase de Lao Tzu.
Oui.
Lao Tzu qui vous dit « Laisse tes peines dans le sable et grave tes joies dans la pierre. »
Magnifique. Merci Hélène, merci Madame Mandrou. Vous venez d'écouter Madame Hélène Mandrou sur le 95.4 Radio Languedoc. Je vous remercie de nous avoir consacré ce moment, chère Madame Mandrou. Je tiens à remercier Guillaume Martin et Bruno Cessillon ainsi que Flore. Notre prochain invité sera Monsieur Jean-François Audrin. Et je vous remercie à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Ilham Gouli. Je vous dis tout, on se dit tout. C'est terminé pour aujourd'hui. Une chronique animée par Ilham Gouli. Réalisation Radio Languedoc en partenariat avec l'X34.